Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, nous recevons avec plaisir Jean-François Colosimo à l'occasion, entre autres, de la sortie d'un ouvrage magistral, un essai philosophique qui vient de sortir aux éditions du Cerf, Aveuglement. Un livre qui continue une œuvre, ce sont quatre essais qui ont précédé ce travail, une œuvre dédiée aux mutations politiques et religieuses de notre époque. Nous avions reçu il y a quelques mois pour la parution des hommes en trop, la malédiction des chrétiens d'Orient. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Alors maintenant, dans Aveuglement, dont je rappelle les sous-titres qui me semblent les plus importants pour commencer notre entretien, religion, guerre et civilisation. Vous analysez l'évolution des violences politiques en éclairant la généalogie secrète du nihilisme. Je retiens deux mots qui peuvent s'appliquer à nos chers chrétiens orientaux, civilisation pour commencer, et leur pendant caché, peut-être, violence et nihilisme. Une première question, le destin des orientaux n'incarne-t-il pas concrètement votre approche théorique ?
Ce qu'on nomme les chrétiens d'Orient, ce sont les véritables précurseurs, en fait, de ce phénomène que j'entends dénoncer, à savoir l'extinction de l'humanité historique, c'est-à-dire, en fait, cette forme radicale que prend la mondialisation, qui d'un côté est centripète, ramène au centre à peu près tout le monde pour former une espèce de consommateur universel, quelqu'un qui a la même nourriture, le même habillement, les mêmes loisirs, les mêmes distractions, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, et d'un autre côté, en même temps, dans le même temps, eh bien, cette mondialisation, elle exerce une pression centrifuge. Les identités, en fait, sont rejetées à la périphérie. Et qu'est-ce qu'elles deviennent ? Eh bien, elles deviennent rebelles, fulmineuses, fulminantes. Elles s'arment parce qu'elles entendent, en fait, survivre. Donc, moi, je n'endosse pas ce mouvement. J'essaie de décrire que la mondialisation, c'est les deux choses en même temps. Or, très rapidement, qu'est-ce que l'on voit ? C'est que dans cette atmosphère, en quelque sorte, de guerre perpétuelle, regardez combien les guerres ont pris, je dirais, de durée. La guerre d'Afghanistan, aujourd'hui, c'est déjà 16 ans. La guerre de Syrie, dont on ne voit pas la fin, et la guerre d'Irak, qui n'est toujours pas soldée. Nous sommes là aussi, pour l'Irak, à une dizaine d'années, pour la Syrie, déjà à 6-7 ans, pour des guerres qui nous étaient annoncées à chaque fois comme étant, en quelque sorte, je veux dire, des affaires réglées par avance. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, l'on voit que les chrétiens d'Orient, parmi toutes ces identités qui sont poussées à la périphérie, ce sont les seuls qui, en fait, ne s'arment pas. C'est une identité désarmée. C'est une identité qui n'a pas vocation, effectivement, à devenir radicale. Parce que toute l'expérience des chrétiens d'Orient, au fil des siècles, ça a été très précisément une mystique sans fanatisme, ça a été une identité qui était portée à la médiation, à l'entre-deux, et aussi c'était une identité qui a su développer des stratégies de survie sans forcément tomber dans l'agression, le bellicisme, la contradiction, le conflit. Eh bien, c'est ce prix que paient aujourd'hui les chrétiens d'Orient. Pourquoi ? Parce que le monde ne prend en compte que les identités armées.
Vous parlez de marge, vous parlez de périphérie. Est-ce que ces communautés ne vivent pas dans la chair, justement, dans leur chair, cette violence, cette rupture de civilisation et au fond l'aveuglement dont vous parlez ? Mais à ce moment-là, il faudrait définir de quel aveuglement nous parlons.
Mais vous voyez, avant même d'en arriver évidemment aux souffrances des chrétiens d'Orient, qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui ne date pas de 2001, qui ne date pas de 1945, qui date qui sont vieilles de plusieurs siècles, mais qui surtout ont commencé véritablement. Le grand exode a commencé en 1915, n'est-ce pas, avec le génocide d'une part, des Arméniens, des Assyriens, autres, et puis aussi avec l'expulsion dans les années 1923 des Grecs d'Asie mineure, et puis tout le mouvement s'en est en suivi depuis, n'est-ce pas. Mais quand on regarde, quel aveuglement finalement sont les victimes, les chrétiens d'Orient. Mais c'est cet aveuglement qui fait que l'ordre colonial occidental a dispensé ses propres modèles partout et qu'il a en fait créé des religions partout. Vous voyez, l'hindouisme, le bouddhisme, l'animisme, ce sont des catégories qui sont inventées au XIXe siècle. On force les gens en quelque sorte à adopter ce modèle où il y aurait d'un côté le politique, de l'autre le religieux, et puis progresser, ça voudrait dire dépasser son caractère religieux. Mais les chrétiens d'Orient, on en fait une catégorie. Mais j'ose poser la question de manière très amicale dans le cadre de cette émission. Les chrétiens d'Orient existent-ils? D'ailleurs, se reconnaissent-ils eux-mêmes dans ce terme, ce que l'on nomme les chrétiens d'Orient? Vous disent-ils, nous, les chrétiens d'Orient? Bien sûr que non. Nous sommes face à une mosaïque de cultes, de cultures, de peuples, de liturgies, de mystiques, de littérature, de rapports au monde, en fait, qui sont quasiment infinis, et qui plus est, qui sont très distincts. Les chrétiens d'Orient, ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient, ils s'échangeraient pas les uns les autres selon les églises ou les communautés auxquelles ils appartiennent, voyez. Et donc, aujourd'hui, on fait une catégorie utile, commode pour l'esprit, et puis surtout facile pour la stratégie. Il y aurait des chrétiens d'Orient qu'il s'agirait de ne pas complètement abandonner, on va dire. L'abandon est en cours, soyons clairs. Je veux dire. Mais encore une fois, certes, la seule chose qui leur est commune, leur véritable communauté, c'est le malheur de l'histoire. C'est le malheur de l'histoire parce que très précisément, d'un point de vue civilisation, eh bien, ils sont à la source de deux civilisations. L'une, la civilisation occidentale, chrétienne puis sécularisée, parce qu'en fait le christianisme c'est d'abord une affaire orientale, c'est une religion orientale, tout se passe en Orient pendant des siècles. Et puis deuxièmement aussi l'islam avec un grand I, c'est-à-dire la civilisation islamique, je parle pas de la religion, l'islam, civilisation de synthèse, inimaginable sans, je dirais, les piliers, les fondamentaux, qu'ont apporté ces mêmes chrétiens d'Orient. Alors vous voyez, vous n'avez pas d'Aristote arabe sans les traducteurs syriaques de Bagdad, et vous n'avez pas de renouveau de la lecture de Platon en Europe sans les exilés de Constantinople. Vous n'avez pas de redécouverte des pères grecs sans les bibliothécaires du Mont Athos, vous n'avez pas non plus de dictionnaire des langues sémitiques sans les transfuges du Levant au XVIIe siècle. Vous voyez, donc cette manière d'être toujours là où je dirais, il faut pas en quelque sorte, c'est-à-dire d'être à l'origine. Hein, c'est ça le péché qu'on reproche aux chrétiens d'Orient, finalement, dans des contestations permanentes de filiation et de patrimoine. Il aurait mieux valu qu'ils n'existent point. C'est ça l'idée qu'il y a quelque part, parce qu'ils témoignent qu'en fait, on est toujours tributaire d'un tiers. Ils sont le tiers absolu, en fait, sans parler évidemment de leur grand lien avec les civilisations premières de l'écriture, dont ils sont aujourd'hui encore le véhicule assez vivant, très vivant. Donc voilà, donc civilisation, c'est un mot d'ordre pour faire la guerre. Eh ben les chrétiens d'Orient, c'est pas qu'ils soient contre la civilisation, etc., mais ils montrent que toute civilisation, au fond, n'est jamais aussi simple dans sa constitution qu'on aimerait le croire. Elle n'est jamais aussi pleine, elle n'est jamais aussi unique, unie, elle ne peut pas être totalisée. Voilà. Les chrétiens d'Orient, ce sont des antitotalitaires par naissance qui s'ignorent parfois comme tels, mais qui le sont parce qu'ils montrent toujours qu'en fait, on ne peut pas réduire, comme on aimerait, toutes les réalités historiques à des phénomènes simplificateurs et exclusifs.
Alors ce sont des langues différentes, ce sont des communautés, ce sont des populations partagées entre plusieurs pays, ce sont donc des citoyens aussi. Nous sommes là au cœur aussi de votre approche, qui est le cœur politique, le cœur vivant finalement de cet établissement. Alors vous nous dites effectivement que la définition, le déterminisme même de l'expression chrétien d'Orient peut poser un problème. Mais justement, est-ce que nous n'avons pas là une anticipation du monde de demain finalement, où on le le voit par les exils, par les transformations politiques de ces pays, cette civilisation qui va se dissoudre peut-être dans un nouveau monde, dans une nouvelle façon de vivre ensemble. Et c'est pas là, justement, n'est-il pas la question de la violence, c'est-à-dire que on ne peut pas les saisir, on ne peut pas les définir, donc ils gênent.
Il gêne parce qu'effectivement, d'abord, il témoigne qu'il y a toujours eu de la médiation, de l'entre-deux, de la complexité, que rien n'est simple. Aujourd'hui, particulièrement au Levant, dans cette région qu'on appelle le plus strictement le Proche-Orient, n'est-ce pas, véritablement dans le monde arabe, eh bien, il gêne parce qu'ils ont été un levier de progrès tout à fait extraordinaire. Pourquoi ? Parce que le christianisme porte en lui-même une partie de sa propre sécularisation, vous voyez. Rendez à César ce qui est à César, c'est la séparation des pouvoirs, le spirituel et le temporel. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni maître, ni esclave. Eh bien ça, c'est l'affirmation de l'universalité de l'homme et donc potentiellement de l'égalité des droits de tous. Et puis troisièmement, même si le christianisme n'y a toujours pas réussi, parfaitement, mais c'est quand même lui qui a pensé le statut de l'égalité entre les genres, entre les sexes, c'est-à-dire entre l'homme et la femme, en laissant la femme exister politiquement. Encore une fois, ça n'a pas été facile, mais malgré tout. Donc, ils ont apporté tout ça, les chrétiens d'Orient. Ils ont apporté aussi la diversité. Ils ont apporté cette idée d'une forme relative de laïcité. C'est-à-dire que l'État devait connaître des citoyens et non pas des communautés gérées par leurs chefs religieux. Ils ont dissocié autant que possible le politique du religieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont la cible des islamistes qui, eux, en fait, veulent confondre le politique et le religieux. Au point où ils en sont aujourd'hui, leurs différentes stratégies. D'ailleurs, au passage, qui en sont a été des stratégies dites progressistes, de gauche. Vous voyez la contribution des chrétiens d'Orient au Proche-Orient, au Levant, dans la formation du parti Baas.
On connaît le rapport, rôle de Michel Aflaq, par exemple.
Michel Aflaq, mais leur rôle aussi dans la genèse des organisations palestiniennes. Et pas toujours d'ailleurs les plus tendres, n'est-ce pas, penser à Georges Habash, hein. Donc ils ont été là, ils ont vraiment été ce facteur-là. Aujourd'hui, c'est très exactement ce que l'islamisme vise, considérant que les chrétiens d'Orient ont été en fait le cheval de Troie de l'Occident et des réformes occidentales. Mais pourtant, ces réformes, eh bien, elles sont le seul espoir de ces pays aujourd'hui. Mais en même temps, ces pays qui ont voulu se constituer en État-nation sont en train de s'effriter. Et sous les frontières tracées par la France et l'Angleterre, par les accords Sykes-Picot, dans les années, dans à la fin de la Première Guerre mondiale, eh bien, derrière ces frontières qui s'effacent, réapparaît le magma communautaire qu'animait l'Empire Ottoman aussi, vous voyez. Or, dans ce magma communautaire aujourd'hui, les chrétiens sont plus menacés que les autres, encore une fois, parce qu'on peut exercer sur eux la violence maximale sans crainte de représailles. Il y a bien quelques milices armées en Syrie, en Irak, elles sont tout à fait maigres en nombre, et puis elles ne correspondent pas à l'esprit des chrétiens d'Orient. C'est un phénomène, je dirais, tout à fait marginal. Ils sont désarmés, on peut leur taper dessus, il n'y aura pas de représailles, on peut exercer sur eux la violence maximale, et surtout, malheureusement, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que la rue, l'opinion populaire, sera plutôt d'accord. Il faut le dire, les chrétiens d'Orient, au sens large, encore une fois, toute précaution faite sur ce terme, mais en tout cas, ceux qui vivent dans les pays arabes aujourd'hui tiennent la place que tenait le juif dans l'imaginaire européen à la fin du XIIe siècle, c'est-à-dire l'étranger, l'indésirable, l'exclu, avec d'ailleurs les mêmes mécanismes minoritaires. Le chrétien est devenu le bouc émissaire, en fait, de l'incapacité de ces sociétés à se former de manière moderne sur le droit, sur la loi, sur la citoyenneté. C'est pour ça que cette page me semble aujourd'hui un peu passée.
Alors, vous évoquez, pardon, Jean-François Colosimo, la violence politique. On pourrait parler peut-être de zones grises de ces communautés, de ces gens, de ces intellectuels, mais qui sont autant d'individus, au fond, c'est encore une fois, l'idée de les regrouper sous une dénomination commune est profondément injuste pour eux. Si on se donne la peine de passer de l'autre côté, de venir en Occident, parce que votre livre, Aveuglement, interroge le rapport de la religion, du politique, de la croyance même dans notre système de pensée. Nous voyons d'un coup ces communautés chassées de chez elles, qui arrivent chez nous avec leur encens, leur cérémonie et leur croyance, leur mysticisme, d'une certaine manière. Et nous, on leur oppose le relativisme. Est-ce que ce relativisme politique n'est-il pas lui aussi une forme de violence?
Il est certain que le drame, il est double. Ils sont chassés de là-bas, mais ils ne sont pas reçus ici. Là-bas, où ils appartiennent, ils sont chez eux, ils ne peuvent pas rester en deçà d'un certain seuil sociologique. Donc ils partent vers des ailleurs souvent idéalisés. Un Occident chrétien qui ne l'est plus, des sociétés d'abondance qui ne le sont plus d'abondance, des sociétés de respect qui ne sont plus des sociétés de respect. Et la raison pour laquelle ils sont partis, qui était leur déclin sociologique, eh bien devient aussi le risque majeur de leur effacement ici, parce qu'il faut une certaine consistance sociologique, communautaire, pour pouvoir tout simplement se transmettre. Or, dès qu'on entame le mouvement de diaspora, on rentre dans la dissémination.
L'éducation, donc, l'abandon de la langue, peut-être ?
Oui, et puis le phénomène très connu de sociologie religieuse, ce qu'on appelle les mariages mixtes, qui fait qu'au bout de 3 générations, en fait, soyons clairs, il y a un gamin ou une gamine qui sait qu'il est vaguement relié à une identité ancienne dont il visitera les vestiges comme un touriste parce que sa grand-mère l'amenait à des liturgies interminables qui se concluaient par des gâteaux sucrés dont il aimerait bien retrouver le goût. C'est le risque, bien sûr, et c'est un risque très grave. Et de ce point de vue-là, les églises ont un rôle à jouer. Mais plus profondément, dans ce problème de religion, civilisation et guerre, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les interventions de l'Amérique sont calamiteuses. Elles sont calamiteuses parce que, pour l'Amérique, il y a une fonction missionnaire aussi de la guerre. Il est évident que les pasteurs évangéliques qui sont embarqués à bord des tanks désignent les chrétiens d'Orient à la vindicte populaire comme des supplétifs de l'envahisseur et de l'occupant. Ça aussi, malheureusement, c'est très clair. Qui plus est, les guerres que font l'Amérique sont des guerres qui relèvent un peu de l'absurdité moderne. Ce sont des guerres qui sont basées non plus sur des raisonnements, je dirais, rationnels, d'efficacité, de calcul, comme devrait être la guerre pour arriver à la paix. Elles sont fondées, ces guerres, sur des idées complètement abstraites, manichéennes, le bien, la justice, l'humanité, le droit. Mais si vous êtes le bien, ça veut dire que votre ennemi, c'est le mal. Vous le diabolisez. Ça veut dire qu'il n'y a pas de salut pour lui, en dehors soit de sa disparition, soit de son extinction. Et c'est là où, depuis en fait leur échec au Vietnam, les Américains ont inventé le concept de guerre humanitaire. Voire, certains généraux en parlent, de guerre compassionnelle. Vous vous rendez compte des oxymores ? Vous prenez des bombes sur la tête, c'est humanitaire et compassionnel ?
Nous sommes ce matin dans Chrétien d'Orient avec Jean-François Colosimo pour la présentation d'un ouvrage « Aveuglement » qui vient de sortir aux éditions du Cerf. Une autre question sur... c'est une question que vous posez d'ailleurs à la fin de votre livre. Dans cet épilogue, vous posez la question de la mort de Dieu. Les convulsions de son cadavre font chaque jour l'actualité. Sommes-nous sortis de la religion ? C'est cette question que vous posez après un état des lieux, un constat de l'évolution de la pensée politique depuis 1789, mais peut-être même avant. Comment on peut faire cette synthèse ? Est-ce que les chrétiens d'Orient ne sont pas justement eux-mêmes l'incarnation de cette synthèse ?
Moi, je pense que la mort de Dieu en Occident vient véritablement de la rationalisation du mystère, de la politisation de la foi, de la socialisation des rites. De ce point de vue-là, les chrétiens d'Orient, d'abord parce qu'ils ne sont pas constitués sur ce mode occidental, mais aussi parce qu'ils ont bénéficié d'une histoire, je dirais, c'est leur seul bénéfice. Le joug islamique sous lequel la plupart d'entre eux ont vécu a permis, en quelque sorte, leur congélation, si je puis dire.
Préservation, d'une certaine
voilà,
manière aussi.
Voilà, c'est-à-dire préservation de la verticalité, de la mystique, de la prière, de la liturgie. C'est tout ce qu'ils avaient, très souvent, pour, en fait, vivre véritablement leur identité.
D'une manière... intériorise le politique, alors, dans ce moment-là.
Oui, ou on le délaisse. Et il y a cette notion verticale, de verticalité, n'est-ce pas ? On ne fait pas les choses pour Dieu, mais on fait les choses de Dieu, puisque on est dans la limite impartie, finalement, d'une relative forme, parfois aussi, il faut le dire, très malheureusement, de ghettoisation. Mais il n'empêche que d'un coup, ils ont gardé, ils ont vénéré leur tradition, qui est la tradition, en fait, de l'Église indivise. Donc oui, je pense que potentiellement, il y a dans les christianismes orientaux de quoi revivifier ce christianisme européen ou cette Europe déchristianisée, ce christianisme européen en déclin ou l'Europe déchristianisée qui vont mal. Oui, il y a là des trésors de spiritualité, oui, il y a là une éducation de la place du corps dans le salut, ne serait-ce que dans les liturgies, les bénédictions nombreuses. Oui, il y a là une réconciliation avec l'idée de cosmos, on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui. Oui, il y a là une mystique de la quotidienneté vécue en liberté. Oui, il y a aussi un sens de la liberté humaine face à Dieu qui est tout à fait radical. Donc, je crois que oui, on pourrait imaginer que c'est une forme de transfusion.
Un dernier petit mot sur la question...
Mais juste, ce n'est pas sûr.
C'est pas certain. Un dernier petit mot sur la question de la transmission du savoir. On a vu en Europe que les 7e et 8e siècles ont été très importants pour la transmission dans les monastères de certains, de beaucoup de savoirs. Est-ce que, en nous projetant un petit peu à l'avenir, il va pas y avoir le même phénomène en Orient, où ce christianisme oriental va se réfugier d'une certaine manière dans les monastères, par l'aspect intellectuel, l'aspect conservatoire? Et est-ce qu'ils ne vont pas être eux-mêmes des nouveaux porteurs de modernité dans les siècles à venir? On peut l'espérer?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est que il faut faire attention. Des chrétiens d'Orient, il y en aura toujours en Orient. Mais il ne faut pas qu'ils deviennent, en fait, accrochés en grappe à des sanctuaires, comme en fait, dans des réserves d'Indiens, et qu'ils prennent un tour folklorique. C'est pas leur destin. Le deuxième point, c'est que oui, bien sûr, moi je crois que ce mouvement a déjà été amorcé, pas forcément que dans les monastères, parfois dans les évêchés, on le voit dans des villes en souffrance, Bagdad, Damas et autres. Oui, c'est autour parfois de 2-3 chrétiens que des gens qui ne se parleraient pas entre eux et qui ne sont pas chrétiens finissent par se parler pour essayer d'évoquer l'avenir commun. Ça s'appelle le sel de la terre.
Des universités aussi, peut-être, on peut penser à Beyrouth.
Des universités, bien sûr. Je crois que les chrétiens sont là, qu'ils font encore ce travail de médiation. Mais ils font ce travail de médiation entre, par exemple, des musulmans qui sont en guerre civile, sunnites et chiites, entre des populations qui se détestent aujourd'hui. Et donc, ils sont là, et ils font, en fait, ils accomplissent leur véritable mission. Leur véritable mission, c'est pas le martyr, hein, c'est la médiation.
Jean-François Colosimo, merci. Aveuglement, guerre, religion, civilisation, un essai qui vient de sortir aux éditions du Cerf.
Merci, merci à vous d'avoir reçu.
Je remercie aussi Dany Journeau, Éric Boisset et Anne-Catherine Lochard pour la réalisation de cette émission, émission que vous pouvez retrouver en balado-diffusion sur le site internet de France Culture dans l'onglet Chrétiens d'Orient. Et nous retrouvons maintenant le service protestant avec Michel Schaeffer. Bon dimanche.